Je vous souhaite une excellente
soirée.
Soyez
au cœur de l'info sur VOA.
À 14h05 à Washington, vous écoutez VOA Afrique. Je suis Alexandrine Poilognon et bienvenue dans À votre avis. Nous parlons ce soir de contraception dans le couple. La planification familiale et la prise de décision concernant la contraception peuvent avoir un impact profond sur la vie des individus et de leurs relations. Le débat sur la contraception dans le couple soulève des questions importantes telles que la responsabilité partagée, le choix individuel, la santé reproductive et l'égalité des sexes. Alors, quels sont vos points de vue sur la contraception dans le couple et lequel des deux partenaires doit en prendre la responsabilité? Pour cette discussion, nous avons en direct de Cotonou, Léa Kenou, Coty, sage-femme, axée sur la santé de la reproduction. Bonsoir Léa.
Bonsoir Madame Alessandrine.
Merci de nous rejoindre ici à Washington. Ma collègue Linor Moudou qui intervient sur des questions de santé. Bonsoir Linor.
Bonsoir Alexandrine.
Bienvenue, nous aurons également des réactions des auditeurs sur la question sans plus tarder. Léa, est-ce que vous recevez des couples sur des questions liées à la contraception?
Alors, je vous remercie. Au cours de ma carrière, j'ai reçu un exemple de 1000 consultations en ce qui concerne la contraception. Il n'y a pas assez de couples. Les femmes viennent seules. Dans la majorité des cas, elles viennent seules. Sur 1000 cas, par exemple, il n'y a que 2 cas où l'homme et la femme viennent ensemble pour les questions de contraception.
C'est énorme, 2 cas sur 1000 cas, c'est énorme.
C'est vraiment énorme.
Et quelles sont les préoccupations qui reviennent souvent lors de ces consultations, que ce soit avec des couples ou individuellement avec les femmes?
Alors, la plupart du temps, les préoccupations qui me reviennent, c'est... comment ne plus avoir d'enfants ou comment espacer les naissances. Quand les couples viennent, le problème qui se pose, c'est comment ne plus avoir des enfants. Mais quand les femmes viennent seules, la plupart du temps, c'est comment espacer les naissances.
La question qui me vient à l'esprit tout de suite, Linor, je vous la pose. Vous intervenez sur des questions de santé pour la Voix de l'Amérique. Et selon vous, à quel moment devrait intervenir la discussion autour de la contraception? Avant le mariage, après, quand on est prêt à avoir des enfants ou quand on décide de ne plus en avoir? Quel moment?
Mais écoute, Alexandrine, ce qu'on entend souvent, c'est qu'il est important pour les couples de parler de contraception dès le départ, quand on s'engage... parce que si un couple a l'intention d'être sexuellement actif, la contraception est un sujet de discussion qui doit faire partie de tout ce qu'on se dit dès le départ. Donc, c'est important d'en parler.
Dès le départ, vous partagez cet avis, Léa? Léa Kenou, vous êtes toujours avec nous? Le temps de retrouver Léa. Est-ce qu'on peut rapidement écouter une auditrice, mère, elle s'appelle Mireille Gayama.
Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Je m'appelle Mireille Gayama, je suis mère de 6 enfants. Parlons de la contraception. Et pour moi, la contraception, c'est l'opposé de la conception. Et pour parler de la contraception, il faut partir de la conception. La conception, pour moi, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et la contraception, c'est le contraire. Dans Genèse 1, 28, Dieu dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux ». Mais parfois, dans des couples, il arrive qu'on ait recours à la contraception. Pour moi, c'est un sujet qui doit être bien étudié pour pouvoir choisir la méthode la mieux appropriée pour la contraception. Mais de toutes les façons, étant évidemment quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. C'est pas, c'est quelque chose qui doit absolument être bien pensé, surtout à l'égard de la méthodologie à utiliser. Étant chrétienne, catholique, pratiquante, je suis contre les méthodes contraceptives, mais l'Église catholique, quand même, encourage la méthode dite naturelle. Voilà, c'est ça mon point de vue.
Voilà, c'était la réaction de Mireille Garama. Je rappelle qu'elle est mère de 6 enfants. Sa réaction soulève plusieurs questions. Moi, j'aimerais vous demander, à Linor et à Léa, d'abord vous, Léa, quels facteurs devraient être pris en compte lors de la décision de contraception dans un couple? Est-ce la santé, est-ce les valeurs personnelles ou les préférences individuelles?
Alors, au prime abord, je parlerai de la santé. Je ne sais pas si vous me recevez, je parlerai de la santé d'abord.
Je vous reçois très très bien.
Et ensuite, des valeurs personnelles. Parce que quand je parle de santé, je parle de la santé de la mère et de l'enfant d'abord. Quand on parle de contraception, on parle d'espacement des naissances. C'est pour permettre à la femme de récupérer après chaque naissance. Vous imaginez ? Des naissances rapprochées, la femme n'a pas le temps de se reprendre en main. Et il y a des risques à chaque accouchement qu'il y a des hémorragies du postpartum. Je veux dire pas postpartum, après accouchement. Vous voyez un peu. La contraception permet à la femme de récupérer mentalement, psychologiquement et de pouvoir se bâtir aussi financièrement. Parce que je peux vous dire, les femmes qui ont des grossesses rapprochées n'arrivent pas à être focus sur le travail. En tout cas, c'est ce que je constate dans mon milieu de vie ici au Bénin. Vous voyez un peu. Et elles sont enclines à des maladies comme l'hypertension artérielle parce qu'elles n'ont souvent pas, le temps pour souffler. Elles sont à cran, elles sont à bout de nerfs et elles ont toutes sortes de maladies. Donc, au prime abord, c'est une question de santé. Après, une question de valeur parce que la contraception, on parle d'espacement de naissance, on parle de la sexualité en quelque sorte. Il faut savoir ce qu'on veut, le nombre d'enfants qu'on veut, vous voyez un peu. Ça fait partie des valeurs qu'une personne doit avoir, qu'un couple doit avoir.
Mireille a surtout parlé de religion. Linor, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Alors, moi, je pense que tout est question du contexte. D'abord, quand on parle de contraception dans le couple marié, à l'opposé d'un couple qui n'est pas marié. Ce sont des facteurs qui peuvent jouer vraiment de façon très importante sur la décision. Mais quand on parle de choix, alors il faut commencer, quand on parle de contraception, ça commence par acceptation. Parce que dans certains contextes, la contraception n'est même pas une question. C'est-à-dire, ça ne se pose pas, ce n'est pas un choix. Comme vous avez entendu l'auditrice qui parlait de la religion, c'est très important pour beaucoup de personnes, leur religion, leurs valeurs. Donc, les valeurs, la volonté, le choix. Ensuite, la santé. Est-ce que cette méthode s'adapte à la santé de la personne? Mais je crois que dans nos contextes africains, puisque là, pour l'instant, c'est de cela qu'il s'agit, il faudrait vraiment savoir quelles sont les valeurs de cette personne, d'abord en tant qu'individu et ensuite dans le couple. Parce que dans beaucoup de contextes, certaines décisions reposent entièrement sur la femme. Vous avez entendu ce que Léa a dit. Elle a dit que dans les consultations, les femmes venaient en majorité. Donc, les valeurs, la volonté, ensuite la santé viendra après pour savoir laquelle des méthodes est la bonne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en la contraception, qui sont contre la contraception.
Léa, justement, les femmes en couple, est-ce qu'elles peuvent choisir librement des moyens de contraception ou choisir de se faire ligaturer des trompes sans l'avis de leur conjoint? La question vaut également pour les hommes. Est-ce qu'un conjoint peut choisir, indépendamment de la volonté de l'autre, de faire recours, de recourir à un moyen de contraception?
À votre question, je répondrai qu'il y a deux cas. Il y a un cas où la femme peut venir faire la contraception librement sans l'avis de son conjoint quand sa santé est menacée. Et ce n'est malheureusement pas tous les moyens de contraception qui sont permis. Dans le cas de la ligature des trompes, par exemple, il faut d'abord le consentement de l'homme. Et dans mon pays actuellement, il faut le consentement de la justice. Et il y a certaines, je dirais, certaines mesures qui sont en vigueur pour pouvoir accéder à ce type de contraception. Vous voyez un peu.
Vous nous en apprenez des choses. Donc il faut l'intervention de la justice avant qu'une femme puisse se faire ligaturer les trompes.
Bien sûr. Il faut, un permis. Et un certain âge et un nombre d'enfants avant de se faire ligaturer les trompes ici, à moins qu'il y ait une maladie ou une pathologie vraiment grave qui mette en danger sérieusement la vie de la mère. Et les médecins décideront après un meeting de ligaturer les trompes à la mère. Sinon, à part ça, c'est la justice vraiment avec l'aval du conjoint qui pourra permettre à la femme de faire la ligature des trompes.
Qu'en est-il des hommes?
Les hommes aussi sont soumis à la même loi. La vasectomie. Les hommes aussi sont soumis à la même loi. Ils doivent aller, eux, à la justice. Mais je doute un peu que les hommes demandent l'avis de leur femme en ce qui concerne la vasectomie. Eux, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils se lèvent de leur propre chef. Ils vont à l'hôpital voir un gynécologue. Je veux faire tel, ben on la dirige directement vers la justice, ce qui n'est pas le cas des femmes. Les hommes conscients, les hommes qui demandent l'avis de leur femme, s'asseyent, posent le problème à leur femme et ensemble, ils arrivent à décider. Voilà un peu.
On va écouter une autre réaction d'un de nos auditeurs avant de poursuivre ce débat.
Bonsoir la VOA Afrique et bonsoir à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de la VOA Afrique. C'est M. Sénat de Dikwadio depuis Togo, Lomé. À mon humble avis, je pense que la contraception, c'est une grande décision qui doit se prendre à deux et qui fait aussi partie du planning familial. Mais la responsabilité, c'est le devoir de l'homme et que la femme aussi, une bonne femme au foyer, doit faire partie de cette responsabilité. Pour aider son mari à accomplir son devoir. Et si ça fait partie du bien-être du foyer, c'est de la même manière que l'homme aussi peut aider sa femme à accomplir son devoir du foyer. Donc je pense que c'est un partage dans la famille, c'est un partage entre l'homme et sa femme. Et c'est une chose qui doit se faire dans la compréhension, par l'amour, le dialogue et la solidarité. C'est ce dont moi je pense. God bless Peace Africa.
Merci à Sénat Dodi pour sa réaction. Je vais également partager l'avis de David du Sénégal avec vous. David qui nous dit que dans son couple, la décision de contraception a été partagée pour le bon fonctionnement de son foyer. C'est vrai, selon lui, qu'il y a des dysfonctionnements, mais c'est une décision collégiale. Il nous dit également que l'égalité des sexes, oui, mais l'homme reste l'homme et c'est incontestable. Il est vrai que la femme n'est pas un objet, mais la décision finale revient à l'homme. C'est la réaction de David du Sénégal. On reste avec vous, madame, Elinor Modo et Léa Kenou du Bénin. Avant d'aller à Elinor, Léa, est-ce que vous pouvez nous rappeler, à part la vasectomie, les autres moyens de contraception disponibles pour les hommes?
Alors, nous avons le préservatif masculin et chez UIDI, en Occident, ils ont des contraceptifs hormonaux, mais en Afrique, ici, particulièrement au Bénin, nous n'en avons pas encore. Nous avons juste le préservatif masculin et la vasectomie.
Léonore, avez-vous quelques apports sur la question?
Oui, alors il faut comprendre qu'il y a des recherches qui sont en cours pour avancer dans tout ce qui est option pour les hommes dans les méthodes contraceptives. C'est vrai qu'au niveau de la gente masculine, les moyens sont très limités. On parle de, comme Léa dit, vous avez le préservatif. Mais il y a aussi la vasectomie. Il y a pas mal de recherches qui sont en cours à NIH, qui est le National Institute of Health, l'Institut national de santé des États-Unis. Nous avons eu à nous entretenir avec des chercheurs là-bas qui sont en train de travailler sur une méthode aussi pour les hommes. Donc, il y a des options qui sont en cours et et on espère voir beaucoup plus de choix pour les hommes dans le futur.
Devrait-il y avoir une répartition équitable des responsabilités en matière de contraception, mesdames ? D'abord vous, Léa.
Je crois humblement que oui. Parce que la femme, elle n'est pas fertile tous les jours du cycle. Mais l'homme, oui. Il libère les spermatozoïdes tout le temps. La femme, elle n'ovule pas tout le temps. Les responsabilités doivent être partagées parce que il en va de l'harmonie du couple, il en va de la santé du couple. L'homme doit savoir que quand on parle de contraception, ça le concerne, ça concerne sa femme. Et s'il n'y a pas de moyen de contraception qui lui va, il doit aider sa femme. Il doit être aux côtés de sa femme lors des consultations en planification pour voir quelles sont les méthodes qui iront avec ma femme. Est-ce que les effets secondaires ne vont pas agir sur l'harmonie sexuelle du couple? Est-ce que les effets secondaires ne vont pas agir sur la santé de ma femme? C'est ensemble qu'elle doit choisir. Ce n'est pas laisser la femme seule aller à l'hôpital, lui donner de l'argent pour le transport juste pour qu'elle aille faire une méthode et revenir. Et quand il y aura les effets négatifs qui vont surgir, quand il y aura les conséquences, il sera le premier à crier que je lui avais refusé cette méthode, etc., etc. Les responsabilités sont partagées et j'invite les hommes à être présents dans toutes les instances de décision en ce qui concerne la contraception, parce que le couple, c'est deux personnes. Vous voyez un peu, c'est mon avis.
Elinor ?
Je vais abonder dans le même sens que Léa pour dire que la sexualité d'un couple se vit à deux, aussi bien dans le rapport sexuel que dans le quotidien. Et donc, les deux partenaires sont... Si les deux partenaires sont potentiellement fertiles, les responsabilités d'une grossesse leur incombent à tous les deux. C'est vrai que ça, c'est vraiment l'idéal, hein, vous savez, mais je pense qu'il faudrait qu'on ait une dose de réalité. Il y a beaucoup de contextes dans lesquels les femmes sont mises au devant de cette décision. Elles sont laissées à elles-mêmes pour pouvoir prendre cette décision. Mais je dis quelque part.
Mais qu'est-ce qui peut expliquer cela? C'est juste par égoïsme ou par méconnaissance du sujet même?
Oui, justement. Il y a le manque de connaissances. Il y a des femmes qui ne savent pas qu'elles peuvent avoir accès à ces méthodes-là. Il y a des femmes qui sont dans des contextes culturels très difficiles. Donc, même si elles sont partantes, elles veulent, elles ont la volonté d'avoir accès, d'aller à la clinique du quartier pour avoir une méthode contraceptive. Vous avez la pression de la famille, la pression du mari, de la société qui les juge, la tradition qui les juge. Donc, et elle aussi, quelque part, qui va se dire, bon, moi, j'ai beaucoup plus d'options, par exemple, si elle a accès à ces options-là. Vu qu'elle a beaucoup plus d'options, elle va se dire que la responsabilité lui incombe. Vous voyez, donc, je pense que on a des cas dans l'idéal et puis on a les réalités du terrain au quotidien, tous les jours, que nous, en tant que reporters, nous avons l'opportunité de voir et même Léa en tant que professionnel. Vous voyez, donc c'est un peu plus compliqué, c'est un peu difficile en fait.
Et il y a aussi l'aspect financier qu'on ne doit pas oublier. Il y a souvent des débats autour de qui doit acheter le préservatif, qui doit acheter la pilule du lendemain, qui doit donner l'argent pour... Est-ce que vous avez souvent ces genres de cas qui viennent à vous, Léa?
Vraiment... Non, parce que le préservatif, surtout ici, c'est gratuit. Quand on vient à l'hôpital, c'est gratuit. Et le préservatif, c'est l'homme qui l'achète ici. C'est culturel ici, c'est l'homme qui achète le préservatif. Par contre, la pilule du lendemain, c'est la femme qui s'en occupe parce qu'elle voit que son avenir sera secoué quand elle va prendre une grossesse à un moment involu. Donc souvent, c'est la femme qui s'en occupe. Mais le préservatif, c'est souvent l'homme.
Tout à l'heure, Linon parlait des réalités culturelles qu'on devrait prendre en compte dans cette question de contraception dans le couple.
Oui. On doit vraiment, comme elle a dit, prendre en compte les réalités culturelles parce que vous savez, ici en Afrique, particulièrement au Bénin, tout ce qui est conception, maternité, c'est la femme, exclusivement la femme. Vous allez constater même que quand la femme va accoucher, c'est une petite parenthèse, elle vient avec d'autres femmes. Les hommes ne sont pas présents. Tout ce qui est maternité, tout ce qui est lié à la sexualité, à l'enfant, contraception, tout ce qu'on peut dire, c'est la femme. Et c'est ainsi, c'est dans la conscience populaire. Vous voyez un peu, les hommes, ils se disent que ce que j'ai à faire, c'est d'apporter l'argent à la maison, c'est de m'occuper de la scolarité des enfants. Mais la femme, tout ce qui est enfant, contraception, féminité, tout, ça lui incombe qu'elle ne me dérange pas. Ce sont les réalités du terrain, c'est ce que nous vivons. Et nous avons du mal à faire véhiculer certaines informations. Il y a la méconnaissance des méthodes, il y a des barrières qui sont causées par la tradition, comme l'a dit Ford College journaliste. Vous voyez un peu, la tradition pèse beaucoup. Les réalités culturelles pèsent beaucoup en ce qui concerne la contraception et tous ses dérivés.
Je vais rapidement lire un message d'un de nos auditeurs qui nous dit que la question de la contraception est très délicate dans les foyers aujourd'hui. Il est préférable, selon lui, de faire le planning dans le bon sens, c'est-à-dire étant en couple et avec l'accord des deux partenaires. La contraception est souvent utilisée pour sauver la vie d'une mère où les deux partenaires ne sont pas prêts, ou quand les deux partenaires ne sont pas prêts à avoir un enfant. Mais de nos jours, nous dit-il, il est utilisé par les célibataires ou les gens qui ne sont même pas en couple. Et après leur mariage, c'est surtout le contraire avec l'excès d'utilisation des contraceptifs. Certains couples ont du mal à avoir d'enfants et après plusieurs mois de traitement, certains couples vont finalement se briser et il faut que le couple se décide ensemble dans leur intérêt avec l'accompagnement des agents de santé pour une bonne planification sans effet secondaire. C'est de Omar Welougem du Mali. Une réaction ? Léa, d'abord, vous, en tant que spécialiste de santé.
Oui, je vais un peu dans son sens parce que, vous savez, normalement, les relations sexuelles, c'est dans le mariage. Si je veux partir sur un pied religieux, les relations sexuelles, c'est dans le mariage. Vous voyez un peu. Maintenant, les célibataires, comme on peut le dire, aujourd'hui, ils ne souffrent pas d'impuissance sexuelle. Ils sont actifs sexuellement. Ils veulent explorer. Ils sont addicts du plaisir. Alors, ils adoptent des méthodes contraceptives, qui ont des effets secondaires. Et au moment du mariage, au moment où ils veulent vraiment avoir des enfants, il y a le revers de la médaille qui fait face. Et on le constate souvent, mais ce sont des cas quand même qui sont un peu rares. Hein. Ouais.
Un apport, Lilo ?
Mais en fait, l'auditeur a soulevé de très bons points, mais en même temps, quand on dit parce que les gens prennent trop de contraceptifs, ça pose des problèmes au foyer, dans les foyers. Oui et non. Oui, parce que c'est vrai que il y a certaines jeunes filles qui n'ont pas accès à la contraception pour des raisons religieuses, culturelles, comme on a évoqué. Et donc, certaines personnes se retrouvent avec des infections sexuellement transmissibles ou alors des avortements, des grossesses précoces qui emmènent des avortements illégaux, donc des infections qui emmènent la stérilité après. Et puis, maintenant, effectivement, quand ces personnes-là rentrent dans les foyers, il y a des problèmes. Mais en même temps, quand on empêche l'accès à la contraception par les jeunes, parce qu'on se dit que c'est les encourager à la sexualité, parce que ça, c'est des choses qu'on entend dans nos interviews avec différentes personnes. Donc, c'est un réel problème, en fait. Parce que, oui, d'un côté, on veut défendre des valeurs qui sont propres à certaines cultures, on veut défendre les croyances religieuses, mais d'un autre côté, il y a des conséquences qui peuvent être irréversibles. Donc c'est très 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 compliqué quand on parle de contraception en milieu des jeunes, dans le milieu des jeunes. Voilà, donc c'est toujours un problème. Que je dis de prendre dans le contexte précis. Parce que dans les échanges qu'on a avec les experts et même les personnes qui partagent leurs témoignages, chaque expérience est différente, est personnelle, est individuelle. Donc, c'est difficile de parler de façon générale.
On va clore ce débat avec vous, Léa. Dans quelques secondes, quelle approche vous conseillez en tant que spécialiste de santé quand on parle de contraception ?
Alors, quand on parle de contraception, je voudrais que les gens aient l'esprit ouvert, qu'il y ait une ouverture d'esprit en ce qui concerne la contraception. La contraception n'est pas un moyen de dépravation. Au contraire, c'est quelque chose qui nous permet quand même d'être en règle, d'être cadré dans notre vie sexuelle, d'être cadré dans nos objectifs en termes du nombre d'enfants.
Merci. Merci Léa. Merci à vous d'avoir pris part à cette discussion sur la voie de l'Amérique. On a parlé de contraception dans le couple. Merci à nos invités. Michel Joseph était à la technique. Je suis Alexandrine Frolognon et Eric Manirakis s'installe pour le journal.